Bonjour, je suis Pete Doherty. J'écoute Pop Pop Pop. Pop Pop Pop, c'est parti.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Je me retrouve aujourd'hui dans une position très étrange puisque nous recevons une femme de lettres au talent certes certain, mais aussi la fille d'un homme dont le nom brille depuis toujours à mon panthéon personnel, comme à celui d'une très grande majorité de Français, à l'exception de ceux, et ils sont hélas trop nombreux, qui n'aiment pas rire, ce qui les expose, je préfère les prévenir, à des calculs biliaires, voire à des cholangites sclérosantes primitives. D'ailleurs, pour ce qui est du panthéon, le vrai, pas celui qui est décousu, hein, même que si ça continue, on verra le trou de mon Wimon. Pour ce qui est du Panthéon, René Goscinny, puisque c'est de lui qu'il s'agit, mériterait mille fois d'y reposer pour service rendu à la nation, au moins autant, sans vouloir vexer personne, que cet obscur Hyacinthe Hugues Timoléon de Cossé-Brissac, duc de Cossé 1784-1813, un homme considérable, dont la duchesse d'Abrantès nous laisse le portrait suivant, je cite. C'était le meilleur des hommes, poli, doux et le plus inoffensif qu'il y ait jamais eu au monde. Il était laid, vieux et de plus un peu bossu, je crois même qu'il l'était tout à fait. Il avait habitué des coliques et était donc obligé de sortir au moins 15 fois du salon de madame lorsqu'il était de service. Cette ouverture et fermeture de porte agissait sur les nerfs de madame et lui inspira une sorte d'antipathie contre ce pauvre monsieur de Brissac. C'était surtout au spectacle que la chose était insoutenable. Cependant, quand il sortait, il n'y avait à craindre que le courant d'air. Mais lorsqu'il ne sortait pas, oh, alors c'était vraiment tragique. Fin de citation. Oui, René Goscinny au Panthéon et que ça saute! Et une heure en compagnie d'Anne, histoire de patienter. Anne Goscinny est l'invitée de Pop Pop Pop.
France Inter. Pop Pop Pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Anne Goscinny.
Bonjour Antoine.
Bonjour et bienvenue dans cette émission. Avec vous, nous allons parler de votre nouvel ouvrage Le Monde de Lucrèce et du petit Nicolas qui fête ses 60 ans. À mes côtés, mon bouillon à moi.
Tellement sympa.
Charline Roux.
Bonjour Anne, bonjour Antoine.
Mais regardez pas comme ça, bonjour ouais, Charline. Ouais. Au menu également de Pop Pop Pop, je vous propose un crossover entre le petit Nicolas et Game of Thrones, car après avoir parlé du plus célèbre des écoliers en culotte courte, nous parlerons des dragons de la série qui excite le plus la planète pop, avec le journaliste de Society, Anthony Mansuy. Et évidemment, comme chaque vendredi, votre dose hebdomadaire de n'importe quoi.
J'ai mis des cacahuètes dans mes fesses.
Mais avant ça, Anne Goscinny, ici, il existe une question encore plus brûlante qu'un dragon de Game of Thrones qui vient de goûter par inadvertance à la potion magique. Ben oui, voilà, ça a du mal à passer. Et cette question, c'est... Pour vous, Anne Goscinny, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses goscinniennes, sans PS, quiznogoudantes ou même petitement nicolatives. Et parmi mes préférées, il y a celle d'un autre jeune héros de la pop culture, Titoff ou presque.
Pour moi, être statufié dans la pop culture, c'est avoir un distributeur pèse à son effigie. Vous avez un distributeur pèse à votre effigie?
Non.
Hein? Et vous, Charline?
Pas encore. Oh bah non.
Non.
Ah, voilà. Moi, je les mange, les bonbons, mais
ouais,
je...
Ouais, ouais.
Je ne les redonne pas.
Là, voilà, là c'est vraiment high
ça,
level.
C'est le top,
quoi. Ouais. Ouais, ouais.
Voilà pour Zep, le papa de Titoff. Et pour vous, Anne Goscinny, alors?
Eh bien, moi, en fait, j'ai une passion dans la vie, c'est Georges Brassens.
Mm-hmm.
Alors, ma pop culture à moi, elle commence et elle s'arrête avec Georges Brassens. En revanche, je pense que mon père a fait beaucoup pour la pop culture en inventant Pilote, magazine dans lequel il a donné leur chance à des tas de jeunes auteurs qui à l'époque étaient des jeunes auteurs, qui aujourd'hui sont des stars.
Vous voulez dire que ça a été une révolution, Pilote?
Ça a été une révolution et il a ouvert les colonnes de son journal à des univers auxquels lui-même ne comprenait rien. Par exemple, la science-fiction avec Philippe Drouillet, par exemple. Mm-hmm. Et ça, je pense que c'est très pop culture, tel que moi, je me représente la pop culture.
Donc, la pop culture pour vous, Anne Goscinny, on va dire Georges Brassens.
Georges Brassens, c'est ma pop culture universelle.
La moustache et la pipe.
Absolument.
Et évidemment, Pilote, la création, une des créations de votre père, Goscinny. Très bien. Eh ben, c'est un bon début, non?
C'est incontestable.
Ça vous convient? Ok. Alors, on va en parler de cette fameuse pop culture dans la suite de Pop Pop Pop, en votre compagnie, Anne. Mais tout de suite, on écoute Bad Guy, c'est la chanson du phénomène américain Billie Eilish.
Sleeping, you're on your tippy toes, creeping around sad type. Make your girlfriend mad type. Might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
Cet extrait de l'album de Billie Eilish qui s'appelle « When we all fall asleep, where do we go ?» Et c'est une bonne question, effectivement. Où est-ce qu'on va quand on s'endort ?
On bouge pas des masses, hein, je crois.
Bah, parlez pour vous. Mmh. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec la petite fille d'une icône pop qui a environ 9 ans. Mais qu'est-ce que c'est que cette filiation étrange? Alors réponse avec son pop portrait, votre pop portrait, Anne. C'est votre portrait bien sûr, mais...
À base de pop, 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 pop.
Et il est signé Charline...
Aujourd'hui, nous recevons une invitée dont la charge mentale doit être l'équivalent d'un 33 tonnes transportant la Fédération Nationale Japonaise de Sumo. Alors, je ne vais pas vous jouer ici la carte du Mars contre Vénus, mais je ne vais pas vous cacher non plus que pour le commun des mortels de sexe féminin, il est souvent compliqué de jongler entre mouflet et boulot, voire mouflot et boulet en fonction de la progéniture. Notre invitée me semble évoluer avec une certaine grâce entre obligation familiale et accomplissement personnel, si roman, du bureau des solitudes à sous tes baisers en passant par le sommeil le plus doux, un récit, le bruit des clés, de la littérature jeunesse avec le monde de Lucrèce, où je pars du principe qu'on peut dire accomplissement personnel à ce niveau-là. Et comme si tout ceci ne pompait pas suffisamment d'énergie, notre invité doit aussi babysitter Astérix, Lucky Luke, Snow Good, le petit Nicolas, et veiller à ce qu'il ne fasse pas, ou plutôt qu'il n'en soit pas fait n'importe quoi. Oui, tout ça, j'en suis bouche bée, ou presque, et aussi un peu fatiguée, mais il faut dire que ma charge mentale à moi est au régime et que ça a plutôt bien marché.
Bon, voilà, alors là, je retiens l'image du quart de sumo.
Ben oui,
la charge mentale. Hein.
Charge mentale, oui.
L'équivalent d'un 33 tonnes transportant la Fédération Nationale Japonaise de Sumo.
Oui, oui. Oui, ça me paraît. Oui,
et ça puis, vous parle, ça,
Nathalie. Ça me parle. Et oui. Puis alors, dans tout ça, j'ai deux vrais enfants quand même.
En plus.
Qui sont des grands ados, 16 et 18 ans. Et alors là, vous pouvez me rajouter 120 tonnes à la charge mentale.
Voilà,
là,
je suis épuisée pour vous. Voilà, je vous le dis.
Bien, Anne Gossili, j'ai une question indiscrète à vous poser. Voulez-vous passer dans mon mixeur de pop culture?
Mais j'en rêve, Antoine, si vous saviez.
Alors pour ça, il faut me donner un livre, un film, une musique et une série culte. Hop. Commençons par le livre. Vous avez choisi Le Comte de Monte Cristo, le roman d'Alexandre Dumas édité en 1846, et vous ne sauriez me faire plus plaisir. Ah. Charline, rappelez à tous ceux qui s'imaginent que c'est seulement un téléfilm de José Daillon, de quel livre magistral il s'agit.
Ah mais moi j'ai que le synopsis du film de...
Ah non.
Ok, d'accord. Edmond Dantès est marin, bientôt capitaine, et il s'apprête à épouser Mercedes, mais il est arrêté. Dénoncé comme bonapartiste, il est enfermé au château d'If. Un autre prisonnier, l'abbé Faria, qui creuse un tunnel en vue d'une évasion, se lie d'amitié avec lui et lui confie l'existence d'un trésor. trésor caché sur l'île de Monte Cristo. Une fois sorti, Dantès devient le comte et a lui la vengeance.
La vengeance. Anne Goscinny, auriez-vous l'amabilité de nous en lire un extrait, s'il vous plaît ?
Avec plaisir. Dantès, étourdi, presque suffoqué, eut cependant la présence d'esprit de retenir son haleine et, comme sa main droite, ainsi que nous l'avons dit, préparé qu'il était à toutes les chances, tenait son couteau tout ouvert, il éventra rapidement le sac, sortit le bras, puis la tête. Mais alors, malgré ses mouvements pour soulever le boulet, il continua de se sentir entraîné. Alors il se cambra, cherchant la corde qui liait ses jambes et, par un effort suprême, il la trancha précisément au moment où il suffoquait. Alors, donnant un vigoureux coup de pied, il remonta libre à la surface de la mer, tandis que le boulet entraînait dans ses profondeurs inconnues le tissu grossier qui avait failli devenir son linceul. Oh ! Ah non, mais alors là, 120 kilos dans la charge mentale. Alors là, à chaque fois, ça me fait le même effet. Hein.
Nous y sommes. Monte Cristo va donc survivre à son évasion. Dites-nous ce qui vous plaît tant dans ce roman. Et surtout, rassurez-moi, ce n'est pas le thème de la vengeance.
Non, ce n'est pas le thème de la vengeance. Il y a plusieurs thèmes. Il y a d'abord le thème de... Comment dire, de l'éducation, parce que l'abbé Faria éduque Dantès qui arrive en ignorant, et finalement Faria fait de lui ce qu'il sera plus tard. La vengeance, c'est accessoire peut-être, mais moi ce qui m'a plu dans ce livre que j'ai lu pour la première fois, je l'ai lu souvent après adolescente, que j'ai inscrit dans une culture Eugène Sue, Zola, enfin voilà, c'est les romans qui se publiaient, qui étaient publiés en feuilleton. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est peut-être les séries d'aujourd'hui. Je ne lâchais pas mon livre et que l'évasion, la vraie évasion, celle dont Edmond Dantès fait l'expérience, elle est là dans les livres. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être incarcéré au château d'If pour tout d'un coup s'évader. Mmh. Et moi qui ai eu une enfance assez atrophié par la mort de mon père à 9 ans, finalement, très vite, j'ai compris que pour m'évader, j'allais la jouer dans les livres. Mmh.
Lisez ça, mes enfants.
C'est un chef-d'œuvre absolu qui a été massacré dans certains téléfilms. Mmh. Mais il y a une très bonne version avec Jean Marais. Et voilà, c'est un livre magistral.
Bien, alors j'ai mon livre, passons au film. Pour le film, vous avez choisi Orphée de Jean Cocteau, qui date de 1950. Charline, savez-vous que le point commun entre Orphée et Carlos Ghosn, c'est une descente aux enfers, c'est aussi le seul d'ailleurs.
Ah bon ?
Oui.
Orphée, poète de renom devant le café littéraire de la ville, est bousculé par Ségeste, l'un de ses jeunes rivaux, que la mystérieuse dame à la Rolls noire, la princesse, tente d'entraîner. Une bagarre éclate, Ségeste est renversée par deux motards. La princesse emporte le corps de Ségeste dans sa Rolls et demande à Orphée de l'accompagner pour témoigner. Mauvaise idée.
Aimez-vous cet homme ?
Oui.
Le drame d'Orphée. Une légende célèbre qui ne se passe à aucune époque précise et que Jean Cocteau vous montre sur nos routes, dans nos rues, dans nos maisons.
Serre-moi fort, Orphée, serre-moi fort.
Aventure terrible et drôle.
Eurydice, vous êtes sous la table ?
J'y suis. Où est-il ?
Aventure où les hommes traversent les miroirs comme de l'eau et circulent dans un autre monde qui les juge et les fait passer de tribunal en tribunal.
Adieu, ce geste. Il ne reviendra plus. Alors. Du calme. Les hommes reviennent toujours.
Orphée de Jean Cocteau. Anne Goscinny, qui dit Orphée dit mystère. Si vous aimez les mystères, pourquoi ne pas avoir choisi le secret de la potion magique des excellences Astier et Clichy?
Ça s'appelle une transition, je m'y connais
oui,
pas.
Oui, c'est une transition, ouais, je m'y connais moi.
Le secret de la potion magique, c'est l'excellent dernier film d'Alexandre Astier sur une idée originale de lui et de Louis Clichy. Qui a fait beaucoup d'entrées et qui, moi, personnellement, m'a réjoui, puisqu'il m'a prouvé qu'on pouvait faire un succès avec un scénario original d'Astérix au cinéma.
Bon, alors Orphée, maintenant.
Ah, merci Antoine. Oui, ça, tout d'un coup, je m'étais préparée là pendant l'extrait avec tout ce que j'allais dire d'intelligent, donc je ne me souviens plus de rien d'intelligent de ce que je voulais dire.
Jean Cocteau, Orphée...
Mais voilà, non, moi, j'ai vu ce film adolescente, et comme le Comte de Monte Cristo, c'est les œuvres sans doute qui nous marquent le plus. Et je dois dire que la grâce de Maria Cazares, qui incarne cette mort finalement ultra fragile et soumise aux passions humaines, m'a toujours bouleversée. La beauté de Jean Marais, à laquelle j'étais pas insensible en ne sachant pas tout.
Deuxième citation de Jean Marais dans l'émission, je le note.
Mmh. Oui, c'est vrai, absolument. Mmh. Et puis cette phrase qu'on trouve dans Orphée, puisqu'on passe, on, 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 on va vers la mort en traversant le miroir, en traversant les miroirs. Et à un moment donné, il y a un personnage qui demande à Hurtubise, qui est joué par François Perrier, mais pourquoi les miroirs? Pourquoi traverser les miroirs? Il y a cette réplique de Cocteau que je trouve sublime et qui dit « Regardez-vous toute votre vie dans un miroir et vous verrez la mort travailler. » Et cette phrase m'a toujours, portée, et je me suis dit que finalement la mort, c'était peut-être pas si définitif, et incarné par la sublime Maria Cazares. C'est un film qui a toujours fait ma joie et que je regarde souvent.
Alors vous êtes...
Si c'est pop en fait, des meilleurs faits.
Tout est pop, allons-y. Évidemment. Allons-y. C'est une question de point de vue, mais à vous entendre, vous êtes mûr pour une série qui s'appelle The OA, que j'ai découvert la semaine dernière et qui m'a littéralement emballé à propos de murs, de passage de miroir, tout ça. Bon. Mais justement, pour ce qui est des séries, alors vous n'avez pas choisi Game of Thrones, et je ne vous cache pas que ça m'aurait pas mal arrangé pour la suite de l'émission, mais non, vous avez choisi Les Ch'tis. C'est une série israélienne créée en 2013 par Ori Elon et Yahonatan Indursky. Charline, est-il exagéré de dire qu'il y a moins d'action chez Les Ch'tis que dans Game of Thrones?
Non, il n'est pas exagéré, Antoine. Un père et son fils, Akiva et Shulem Ch'tis, sont seuls depuis le décès de la mère et le départ des autres enfants. Ils se disputent, ils se réconcilient, ils se moquent, qu'il rit, mais tout va changer lorsqu'Akiva va rencontrer Elisheva.
In the heart of Jerusalem, in an isolated community, a father and his unwed son share an apartment, their memories and their dreams.
קוראים לי שולי. אנחנו איבדנו את האישה שלנו לפני שנה בערך.
אז שנפטרה, אני חולם עליה. אמא.
Alors, une série qui a reçu quelques prix en Israël, comme par exemple meilleure série dramatique, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur chef opérateur, meilleur montage, meilleure musique, meilleurs effets sonores, meilleur décor, meilleur costume. Ah, ils n'ont pas eu le meilleur maquillage. Ah, si, ils ont eu aussi meilleur maquillage. Bon, ça veut dire quoi, ça? Ça élimine tout le reste?
Non, c'est pas ça. C'est que c'est une série où on ne parle que d'une chose, et une chose que j'adore et qui, je pense, est très pop, c'est la transgression. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce jeune rabbin, fils de rabbin, et on essaye de le marier, on lui présente des jeunes filles qui sont pas mal, qui sont bien, enfin, qui répondent à plein de critères, et il tombe fou amoureux de sa cousine. Le truc qui se fait pas, quoi. Et pire que ça, il est peintre. Il aime qu'une chose, c'est peindre. C'est-à-dire que, étudier la Torah, c'est pas trop son truc. Il veut peindre et il veut tomber amoureux. Et en fait, c'est l'histoire d'une transgression avec plein de choses. Et moi, j'ai adoré. Et puis, dans cette série, il y a quelque chose qui, moi, me touche personnellement, puisque vous parliez de mon père. C'est que dans cette série, on parle beaucoup yiddish. Mmh. Et le yiddish était la langue maternelle de la mère de mon père. Et quand j'entends cette langue, il y a forcément quelque chose de moi qui passe de l'autre côté du miroir. Et ça s'appelle rebondir, Antoine.
Bien, voilà. Bravo. Et je rebondis à mon tour pour vous conseiller une autre série israélienne qui s'appelle Fauda. Vous avez entendu parler?
Ah oui, j'ai entendu parler, j'ai pas vu.
Ah là là, ça c'est remarquable.
Ah je vais regarder.
Voilà, continuons à rebondir, cette fois-ci sur les chansons. Et la chanson que vous avez choisie, Anne Goscinny, c'est celle-ci.
Et c'est ma mère ou la vôtre? Une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas.
Anne Sylvestre, une sorcière comme les autres, cet extrait de l'album éponyme sorti en 75. Est-ce que vous savez que vous partagez cette passion pour Anne Sylvestre avec Vincent de Dienne?
Ah oui, je crois que je savais.
Ouais, vous le saviez.
Mais moi, c'est la passion de ma vie. Ma mère écoutait beaucoup Anne Sylvestre, et puis quand j'ai eu 17 ans, elle m'a emmenée à l'Olympia voir Anne Sylvestre. Et j'ai l'impression que je suis née à nouveau à ce moment-là. Et depuis, je
suis... Vous êtes une born again Sylvestre.
Oui, voilà, c'est ça exactement. Et alors, depuis, je suis super fan. Et si, par exemple, elle chante 10 fois de suite à Paris, je vais la voir 10 soirs de suite.
Ah oui.
C'est à ça qu'on mesure si l'homme avec lequel vous vivez est vraiment amoureux. S'il vient une fois, bon, on se dit. Puis, voilà, à la deuxième fois, on se dit, je vais peut-être l'épouser finalement. Voilà, parce qu'il faut quand même... Puis, voilà. Et c'est cette chanson, Une sorcière comme les autres, qui est une chanson qui parle de féminisme et qui dit, s'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois qui parle aux hommes. Moi, je peux marcher devant. Moi, c'est quelque chose qui me touche, comme beaucoup de mères de famille qui se lèvent la nuit, alors que le type qui dort à côté de vous, finalement, c'est fou, mais il n'entend pas.
Ah bon?
Le bébé qui pleure.
Ah bah alors, pas moi.
Ah, très bien.
Ah oui, moi, j'ai Louis Fine. Hein.
Oui. Et une femme, mais il y a l'entendre et se lever.
Non, je me suis levé. Oh, mais regardez pas comme ça, Charlie. Bon, alors je résume.
Et puis Anne Sylvestre, c'est un poète extraordinaire, une voix formidable. Enfin voilà, je suis super fan.
Bien. Alors Anne Goscinny, je résume Alexandre Dumas, Jean Cocteau, Stiesel et Anne Sylvestre. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça.
Aimez-vous cet homme?
In the heart of Jerusalem.
Oui.
In an isolated community.
Le drame d'Orphée.
Une sorcière comme les autres.
A father and his unwed son share an apartment.
Dans nos maisons.
Serre-moi fort, Orphée, serre-moi fort.
Par un effort suprême, il la trancha précisément au moment où il suffoquait.
La voilà, votre carte d'identité pop.
Eh bien, écoutez, me voilà riche d'une nouvelle carte d'identité que je garde bien volontiers.
Très bien, gardez-la par devers vous. En attendant Anne Goscinny, avant de parler de votre monde et du monde de Lucrèce, on va écouter les Easy Beats avec Friday on My Mind.
Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I'll have Friday on my mind. Gonna have fun in the city. Be with my girl, she's so pretty. She looks fine tonight. She is out of sight to me.
Friday on my mind dans Pop 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 sur France Inter et nous sommes vendredi. Mais ça,
c'est donc vraiment... de bonne aloi.
Oui, parce que Friday, ça veut dire vendredi.
Ah oui.
En France. Bon. Anne Goscinny, je le disais en début d'émission, le petit Nicolas fête ses 60 ans, mais comparé à Batman qui lui va fêter ses 80, Tintin 90 et Mickey qui vient de souffler 91, c'est un gamin, non?
Ah oui, c'est un gamin. En tout cas, il est éternellement ce petit garçon dont on aime retrouver les histoires. Mm-hmm. Finalement, il est indémodable, mais est-ce qu'il a jamais été à la mode? C'est pas ça
la bonne
secret.
Idée, c'est qu'il n'est pas vieilli aussi.
Non, il n'a pas vieilli, il n'a pas grandi. Alors je sais que mon père avait dit à Jean-Jacques Sempé qu'il avait envie de reprendre le petit Nicolas et de le mettre dans une école mixte, puisque le petit Nicolas s'arrête en 64. Et mon père avait ça dans l'idée, il a pas eu le temps de le faire. Mais voilà, c'est vrai que c'est un personnage qui traverse le temps sans une ride.
Ça aurait été le début des problèmes.
Il paraît. Je suis pas sûr. Et le petit Nicolas, c'est encore ceux qui ont son âge, qui en parlent le mieux. Il est populaire qu'on soit un petit gars ou une petite fille.
Pour moi, le petit Nicolas, c'est un petit garçon assez turbulent qui se rend pas compte toujours de ce qu'il fait. Et moi, je l'aime parce qu'il est drôle et qu'il fait des choses que moi, j'oserais pas faire.
Voilà, donc il fait toutes les bêtises que les enfants n'osent pas faire. Est-ce encore le cas aujourd'hui ou il a été battu quand même depuis ?
Alors, il n'a pas été battu, il n'a pas trop fréquenté de filles, il n'a pas écouté Anne Sylvestre encore.
10 soirs de suite.
Oui, finalement. Mais je crois qu'il continue à plaire beaucoup parce que dans cet univers-là, tout est bienveillant. Quand, par exemple, les parents se disputent, il n'y a jamais de divorce, de menace de divorce, mais il y a une tarte aux pommes qui vient sceller la réconciliation, faite par la mère, toujours, quand même, pendant que le père lit son journal. Oui. Voilà. Mais il n'y a pas d'enjeux vitaux, il n'y a pas de guerre, c'est très bizarre, mais la grande histoire n'est pas passée sur ce monde-là, qui peut paraître un peu sclérosant, mais qui, en fait, est rassurant. On va de l'école à la maison, de la maison au terrain vague.
Je signale que la voix de la petite fille que nous entendions était celle de Juliette.
Oui, c'est vrai. C'était
Mademoiselle Roux, qu'elle nous case à la moindre occasion dans cette émission.
Il faut bien se travailler, au bout d'un moment, c'est un investissement, il faut bien que ça serve à quelque chose.
Ça coûte une fortune,
bien sûr, évidemment.
On n'en parlait pas. Ce petit Nicolas traverse les époques et continuera de faire des bêtises dans les prochaines années, car il va faire l'objet d'un film d'animation avec un scénario signé Michel Fessler, le scénariste de La Marche de l'Empereur. Et il va ressembler à quoi ce petit Nicolas futur qui aura toujours 9 ans ?
En fait, c'est un scénario que j'ai coécrit avec Michel Fessler, effectivement, qui est très particulier, dans lequel on a intégré les deux auteurs, c'est-à-dire mon père et Jean-Jacques Sempé, et on les fait dialoguer avec Nicolas, et on essaye d'expliquer le petit Nicolas par l'histoire intime des auteurs. Donc c'est un dessin animé qui va être un peu à part, avec une technique d'animation extraordinaire, parce qu'on a l'impression que le dessin de Sempé est animé vraiment lui-même. Donc c'est extrêmement beau, poétique, et je pense que ça va être chouette, une belle aventure.
Alors votre héroïne à vous, Anne Goscinny, s'appelle Lucrèce, et elle est souvent considérée comme la sœur du petit Nicolas. Quels gènes ont-ils en commun ?
Écoutez, de même qu'on ne peut pas nier ses descendants, vous êtes la maman de Juliette, d'après ce que je comprends. Voilà.
Ah oui, ça.
Et on peut pas nier ses ascendants. Donc forcément, Lucrèce et moi, on a été nourris au même humour, à la même façon de traiter les choses, l'actualité. Voilà, donc il y a évidemment un air de famille. Et puis pour être plus sérieux, j'ai beaucoup lu cette œuvre de mon père, puisqu'avec le petit Nicolas, je me suis souvent imaginé qu'il me racontait une enfance qu'il n'a pas eu le temps de me raconter. Donc je me suis dit que peut-être chez lui, ça se passait comme ça se passait dans le petit Nicolas. Finalement, j'ai intégré cette œuvre plus profondément. Et puis quand Catel m'a dit « et si on faisait quelque chose ensemble ?» c'est sorti sous cette forme-là, avec une petite fille et pas un petit garçon. Et finalement, il y a effectivement un air de famille que je revendique et dont je suis très fière. Non seulement, je suis très très fière, oui. Je le revendique et je l'assume.
Le petit Nicolas a 60 ans, Lucrèce a à peine un an.
Absolument.
Un peu plus d'un an. Quel conseil le vieux routier de Nicolas donnerait à la jeune Lucrèce ?
Te prends pas au sérieux, surtout te prends pas au sérieux, parce que dans Lucrèce, j'ai fait apparaître le petit-fils du petit Nicolas, qui a la grosse tête parce que son grand-père était une superstar de romans pour enfants, et Lucrèce, elle le vit très mal. C'est quoi ce blaireau qui vient, qui veut être le roi pendant la galette des rois, alors qu'elle, elle veut régner seule, et elle entend régner seule. Donc voilà, je pense qu'il lui dirait surtout, te prends pas au sérieux, Lulu.
Et alors justement, ce conseil en bonne préado, est-ce que Lucrèce l'écouterait ?
Alors vous avez devant vous une mère fatiguée de 2 grands ados, donc je pense que les préados, ados et vieux ados n'écoutent pas les conseils. Voilà. Donc Lucrèce, on continuera à n'en faire qu'à sa tête.
Anne Goscinny, on ne se connaît pas ou peu, mais je vous le dis tout de suite, je suis totalement dépourvu de toute forme de psychologie. Pourtant, je ne peux m'empêcher de remarquer assez finement, je dois dire, que la fille reprend le flambeau du père. Elle va même jusqu'à s'atteler à une dessinatrice qui n'est pas sans paix, mais qu'a-t-elle ? Comment est-ce que tout ça s'est organisé dans votre tête ? Comment est-ce que vous vous êtes dit, à mon tour, je vais y aller ?
Quand j'ai rencontré Catel, et j'avais adoré Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges, Benoît de Groult, et je lui ai dit, très contente de mon idée, très fière de moi, mais pourquoi tu ferais pas un roman graphique sur mon père ? Elle m'a dit, mais ça va pas, moi je m'intéresse aux femmes, ton père n'est pas une femme, certes, mon père n'est pas une femme.
Et Goscinny n'est pas une femme.
Et puis elle a réfléchi, et elle m'a dit, mais je vais raconter ton père, qui est quand même le géant de la bande dessinée qu'on connaît, par tes yeux à toi et par ton regard à toi. Et donc elle a terminé un magnifique roman graphique qui sort fin août chez Grasset, dans lequel elle raconte mon père de sa naissance 1926 à la naissance d'Astérix 1959. Voilà, et je suis devenue très amie avec elle, on a passé des vacances ensemble, on a beaucoup parlé, et un jour elle m'a dit, mais tu sais que tu es beaucoup plus drôle que tes romans sinistres, maniaco-dépressifs, qui parlent tour à tour de mort et de psychanalyse.
Une bonne copine.
Voilà. Pourquoi tu n'essaierais pas d'écrire un truc drôle ? Et je lui ai dit, mais jamais j'y arriverai. Comment veux-tu, avec le géant de père que j'ai, que je mette mes tout petits pas dans ces énormes empreintes ? Et puis évidemment, un mois plus tard, fidèle à ma maxime préférée qui est avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, ça me permet d'être versatile. Eh bien voilà, je lui ai envoyé par mail les deux premières histoires de Lucrèce qu'elle a illustrées. On a tout envoyé à Gallimard Jeunesse qui nous a dit banco, on fonce.
Mais alors, voilà. Une héroïne féminine, c'était une évidence ou c'était précisément pour travailler avec Catel?
Je pense que ça aurait été plus compliqué de la convaincre avec une héroïne masculine.
Et vous?
Moi, j'avais envie d'être dans la peau d'une petite fille qui est plus vraiment une petite fille. Vous savez, Lucrèce, elle a 11-12 ans, elle a l'âge précis où ces petites filles deviennent des jeunes filles, où elles ont envie d'aller dans la mer glacée de l'âge adulte, et puis vite, elles se rapatrient sur le sable de l'enfance qui est chaud et réconfortant.
Oui.
Ah oui. Et c'est cette tranche d'âge très courte, qui dure peut-être 6 mois, où elles sont plus l'une et pas encore tout à fait l'autre, qui m'a passionnée, qui m'a intéressée, et voilà, que j'ai eu envie de traiter magistralement accompagnée par Catel.
Lucrèce est une collégienne qui adore aller au cinéma, qui adore sa tortue, qui s'appelle Madonna, et qui pense ressembler à sa mère en, je la cite, mieux habillée et moins fatiguée.
Voilà, alors là, je pense que je me suis un petit peu servie de ce que j'entends de la part de ma Salomé à moi, à la maison, mais tu comptes sortir comme ça, quand vous avez passé...
Je connais ça aussi.
Voilà, 2-3 heures à vous faire belle pour aller à un dîner chic où vous avez envie d'être brillante et tout, et tout d'un coup, mais tu vas pas y aller en pyjama, mais enfin, mon amour, c'est pas mon pyjama, c'est ce que je viens de m'acheter aujourd'hui pour être belle, justement. Donc, de tout ça, j'ai eu envie de parler et ça me fait marrer.
Quand on écrit de la littérature jeunesse, on s'astreint à écrire à hauteur d'adulte, à hauteur d'enfant ou d'adulte qui se projette dans ce qu'il pense être l'esprit d'un enfant.
Moi, j'écris, alors ça va vous paraître une réponse très pop, j'espère, à hauteur d'adulte pour les adultes. C'est-à-dire qu'à aucun moment, à part le champ lexical que je restreins un peu, parce qu'il ne faut pas non plus les noyer, ces pauvres petits, il ne faudrait pas qu'ils aient à ouvrir un dictionnaire. Mais moi, j'écris à hauteur d'adulte pour les adultes, pour faire marrer les adultes. Et j'ai la faiblesse de me dire que si ça fait marrer les adultes, les enfants suivront. Voilà.
Et alors, l'une des inspirations pour le monde de Lucrèce, c'est la comtesse de Ségur.
Ah,
alors,
oui.
Pourtant, Lucrèce est très ancrée dans son époque et les préoccupations qui vont avec. Comment est-ce que vous opérez le mélange?
C'est-à-dire que la comtesse de Ségur a dans mon panthéon intime une place énorme. Et j'entendais Jérôme Commandeur chez vous l'autre jour qui parlait d'Enid Blyton avec le Club des Cinq en vacances et tout. Je me suis dit, je vais pas leur donner comme livre culte les vacances de la comtesse de Ségur, ça va faire un peu redite. Mais je trouve que ce sont des livres magistralement écrits, une langue merveilleuse. Et finalement, elle parle de tout, elle dit tout et les structures narratives sont tout à fait exceptionnelles. Et voilà, pour moi, c'est un maître.
Vous avez une ado qui a 16 ans et quand l'idée de Lucrèce a germé, elle en avait 13 ou 14. Elle est une forme de co-auteur?
Alors, c'est marrant que vous disiez ça. Et d'ailleurs, je suis très heureuse que là, elle soit en cours de maths et qu'elle n'écoute pas France Inter. Parce que l'autre jour, elle m'a dit, au fait, par rapport à mon argent de poche, est-ce qu'on pourrait réévaluer les choses? Puisque finalement, je suis ta source d'inspiration. Comment on fait pour les droits d'auteur? Est-ce que je pourrais prendre un agent?
Et alors, puisqu'on est entre nous?
Eh bien, écoutez, elle a 16 ans, je lui ai dit, écoute, mon amour, on va régler ça chez Zara ensemble. Et puis juste, on va faire un one-shot. Mais c'est vrai qu'elle est ma source d'inspiration. Oui, c'est vrai que je me marre beaucoup, que je la regarde, je l'observe.
Et finalement, vous diriez que c'est un livre, vous avez partiellement répondu, mais vous diriez que c'est un livre pour les pré-ados, pour les grands-enfants, ou alors un livre pour comprendre les enfants, ou pour s'en consoler?
Moi, je pense que c'est un livre Shrek. Alors, c'est-à-dire que Shrek, moi j'ai emmené voir mes enfants tous les dessins animés qui passaient au cinéma pour les initier au cinéma. Et puis je m'ennuyais à peu près 99 fois sur 100, comme le dirait Georges Brassens. Et puis un jour j'ai vu Shrek et je me suis pas ennuyée. Et je me suis dit, si un jour j'écris des livres pour les enfants, il faudra faire en sorte que les parents qui les leur lisent ne s'ennuient pas. Voilà, c'est mon livre Shrek.
Bien. Anne Goscinny, Le Monde de Lucrèce, le troisième volume, hein, sorti en un an, co-signé avec Catel, qui fait des très très beaux dessins, c'est édité chez Gallimard Jeunesse. Vous ne bougez pas, on n'en a pas fini avec vous. Est-ce que vous savez faire ça?
Non.
Ça vous dit d'essayer?
Je vais essayer.
Bah oui,
bon, c'est tout petit. J'aurais dû m'entraîner.
Mais non, c'est un premier pas.
Je reviendrai.
Le début, le premier pas. C'est pour lancer les Pop News.
Du 13 au 19 avril sur Canal Plus Family, c'est le cycle Génération Spielberg. Au menu, 2 films réalisés par le maître, le BGG pour la première fois, et Ready Player One. 6 films des studios Amblin, Les Goonies, Bigfoot, L'Aventure Intérieure, Miracle sur la 8e rue et évidemment eux. Les Gremlins 1 et 2 et un documentaire inédit sur l'influence de Spielberg sur la pop culture réalisé par Jacques et Johan de la team Rokirama avec entre autres John Badham, celui à qui on doit War Games, Joe Dante, Daddy Gremlins ou encore Michael Lehman, Hudson Hawk, Gentleman et Cambrioleur. Une semaine de bonheur qui débutera donc demain.
Ce samedi, c'est le Disquaire Day. Profitez-en pour vous ruer chez vos disquaires indépendants, c'est important. Et à l'occasion du Disquaire Day, venez vivre la Roger Jekyll Experience. Le Café A à Paris accueillera un événement spécial autour de Roger Jekyll. Exposition dédiée à l'artiste par Stéphane Sednaoui, DJ sets, animation et concert tribute à Roger Jekyll avec entre autres Edge Byrne. Quant au vinyle de J. Jekyll, édité exclusivement pour le Disquaire Day, on y trouvera ceci en façade.
Stay around, stay around, girl, and let's make love one more time.
Ah oui, encore une fois, allez. Et un inédit en face B. Quant à l'album de JJ, il arrivera lui le 26 avril.
Coup d'envoi mardi prochain à Lyon au cinéma Comédia du festival Hallucination Collective, intégralement dédié, je cite, à l'autre cinéma. Sont diffusés pendant ce festival des films rares, oubliés, c'est le critère premier. Et c'est donc une occasion assez unique de les voir en salle sur grand écran. Pendant le festival, il y a une compétition officielle et des rétrospectives autour d'un thème. Celui de cette année, c'est Unexploited, soit une série de films afro-américains en dehors total des clichés de la blaxploitation, des films sociaux, engagés, revendicatifs et bien sûr hallucinés. Tous les détails sont sur hallucination-collective.com et je cite, pour cette 12e édition, le mot d'ordre demeure halluciné, creusez, enrichissez-vous.
France Inter. Pop-up. Antoine Decaune.
La France a peur.
Roger Jekyll.
Oui, Roger Jekyll. Merci Charline. Avant de parler de dragons et de bézouilles avec la 8e saison de Game of Thrones.
Il est nul ce résumé. Dragons et bézouilles. HBO va pas être content. Hein.
J'aimerais vous faire écouter un morceau magnifique de Bob Dylan, Simple Twist of Fate, qui sort en vinyle à l'occasion du Disquaire Day qui a lieu demain, une édition spéciale.
They sat together in the park as the evening sky grew dark. She looked at him and he felt a spark tingle to his bones. 'Twas then he felt alone and wished that he'd gone straight and watched out for a simple twist of fate. They walked along by the old canal, a little confused, I remember well, and stopped into a strange hotel with a neon burning bright. He felt the heat of the night hit him like a freight train moving with a simple twist of fate. A saxophone someplace far off played as she was walking on by the arcade, as a light bust through a beat-up shade where he was waking up. She dropped a coin into the cup above a blind man at the gates and forgot about a simple twist of fate. Was bare. He didn't see her anywhere. He told himself he didn't care. Pushed the window open wide. Felt that emptiness inside, to which he just could not relate. Brought on by a simple twist of fate. He hears the ticking of the clock. Walks along with a parrot that talks. Hunts her down by the waterfront docks where the sailors all come in. Maybe she'll pick him out again. How long musty wedge. One more time for a simple twist of fate. People tell me it's a sin to know and feel too much within. I still believe she was my twin, but I lost the ring. She was born in spring, but I was born too late. Blame it on this simple twist of fate.
Dylan, Simple Twist of Fate, c'est à acheter en édition vinyle limitée à l'occasion du Disquaire Day demain. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie d'Anne Goscinny et vient de nous rejoindre l'homme qui a vu les dragons. Anthony Mansuy, journaliste pour Society, et qui a donc eu le privilège d'interviewer George R.R. Martin, auteur de cette petite saga confidentielle mais prometteuse qu'est Le Trône de Fer. Bonjour Anthony Mansuy.
Bonjour Antoine, bonjour Charline.
Bonjour.
Petite saga confidentielle mais prometteuse, ça résume bien l'affaire.
Ouais, je pense, ouais. Ouais, bah, disons qu'il y a assez peu d'attentes, mais on va peut-être.
Mais qu'est-ce qui se passe avec cette histoire? Pourquoi est-ce que tout le monde est dingue de Game of Thrones, sans blague?
Bah, il y a plusieurs explications. Comme vous le disiez, il y a de la bézouille et des dragons. Donc...
Dans l'ordre.
Mais si on veut, il y a une réponse courte qui pourrait tourner autour de ça. Après, une réponse plus longue qui fait que il y a eu l'énorme succès du Seigneur des Anneaux qui a. Mm-hmm. Parce que moi, je me rappelle, je jouais à Donjons et Dragons quand j'étais ado et je passais pour un geek ultime, quoi, genre, un abruti fini. Maintenant, jouer à Donjons et Dragons, c'est cool, presque, le succès du Seigneur des Anneaux. Et après, je voyais des articles quand j'ai fait mes recherches avant l'interview, des gens qui, sur des sites conservateurs américains, par exemple, des gens qui écrivaient que Game of Thrones marchait parce que ça leur faisait, enfin, c'était une série conservatrice. Mm-hmm. Des sites communistes qui vont dire que c'est une série communiste. D'autres qui vont penser que c'est une série féministe parce qu'il y a des femmes de pouvoir, mm-hmm. d'autres qui vont penser que c'est une série sexiste parce qu'il y a des femmes.
Aussi.
Oui, ça, je pense que c'est l'un des seuls trucs sur lesquels George R.R. Martin
et prophétique aussi.
Veut bien dire qu'il a fait de l'allégorie. Mm-hmm. Pour tout le reste, en fait, on peut tout projeter dessus et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi bien.
Et alors, George R.R. Martin est assez avare de paroles. Comment est-ce que vous avez obtenu cet entretien? Il s'est déroulé où? Comment? On veut tout savoir.
Ah. Ben, il n'y a pas d'histoire de j'ai campé devant chez lui pendant 3 semaines, même si ça peut marcher.
Mais, cette interview a bien eu lieu.
Elle a eu lieu, oui, effectivement. Okay. Donc non, j'ai pas campé chez lui devant 3 semaines, mais c'est un peu comme toutes les bonnes choses dans la vie. C'est un mélange de chance et de travail. Mm-hmm. Le travail parce que c'est un harcèlement pendant un an et demi de son éditeur, et la chance c'est parce que il y avait la promotion de ce bouquin qu'il a sorti en décembre, qui est pas un bouquin dans le canon de la série, c'est une histoire de la dynastie Targaryen, qui est une des la dynastie de Khaleesi qui a les dragons et d'autres. Et donc il sort ce bouquin à ce moment-là, il fait un peu de promo et j'ai tellement harcelé l'éditrice pendant un an et demi que je pense que mon nom est venu en tête en premier et voilà quoi.
Vous avez le sentiment de rencontrer le Père Noël?
Ah,
Non, mais je veux dire, quelle importance avait pour vous, George R. Martin?
C'est physiquement déjà.
C'est pas un héros, mais après
c'est. Bon, c'est un peu de notre jardin quand même.
Il est petit.
Noël, oui, bon.
Il est rond. Oui. Et surtout, en fait, moi, ce que j'ai beaucoup. Enfin, il y a un regard amusé, en fait. Il a 70 ans. Et c'est un regard d'enfant. C'est un peu le regard de l'enfant qui. Ce qu'il faisait vraiment, hein, quand il avait 6-7 ans. Il allait dans les rues de Bayonne, New Jersey, dans laquelle il a grandi. Il allait déclamer des histoires qu'il avait écrites à ses petits camarades, à ses copains, il leur demandait un petit peu d'argent, il leur déclamait des histoires, il prenait les voix des loups-garous, etc. Et en fait, il a encore ce regard-là, quoi. C'est assez marrant de voir chez quelqu'un qui pourrait être votre grand-père un regard amusé, quoi, que même moi, j'ai peut-être pas. Mmh. Donc c'était très agréable à voir chez quelqu'un.
Ça contournait le point commun, je pense, avec René Goscinny.
Mmh. Oui, sans doute, c'est ce que je découvre.
Ça vous donne envie de regarder Game of Thrones, Anne?
Alors peut-être pas les 8 saisons, Antoine, mais peut-être au moins le premier épisode de la résumés. Première saison, et puis après je repasserai au ch'ti seul.
Okay.
George R.R. Martin, est-ce qu'il est inquiet, amusé ou dépassé par l'engouement suscité par les livres et la série?
Il en souffre pas, mais en fait ce qui est assez drôle, c'est que pour montrer un peu le personnage, il a mis 30 ans à demander sa compagne en épouse. Donc ça montre que c'est quelqu'un qui prend son temps. Et
ah oui. dans une époque...
Une maturation lente.
C'est heureux qu'elle ait survécu.
il met longtemps à écrire ses bouquins. Il est un peu à contre-pied de l'époque, si vous voulez. C'est qu'une époque qui demande que ça aille très très vite. Et lui, en fait, il allait vous faire foutre. Je prends mon temps. Mm-hmm. C'est mon rythme à moi. Et d'ailleurs, ça date d'avant la série, ça. Mm-hmm. Ah, déjà à l'époque du tome 2, il y avait déjà des gens... Quand il postait des vidéos, des photos de lui sur son blog à l'époque, ou qu'il était filmé dans une convention, les fans lui disaient tu veux pas bosser sur le prochain tome au lieu de prendre du temps pour toi. Mmh. Et ça, c'est même avant la série. Donc il y a toujours eu cette folie autour de Game of Thrones sans qu'on puisse l'expliquer.
Anne Goscinny, pour les gens comme vous qui n'ont pas encore vu Game of Thrones, j'ai tendance à résumer les 8 saisons comme ceci. Anthony, j'ai affaire à un expert, vous validez ou pas ?
Non.
Non, pas du tout.
Qu'est-ce que vous y aurez ajouté ?
Je ne vais pas faire des bruits, mais vous avez prononcé le mot tout à l'heure, qui commence par B, qui finit par Ezouille.
Ah, la Bézouille.
Non, et puis après, c'est quand même assez psychologique malgré tout. Il y a des personnages... C'est une histoire de famille. Enfin, c'est une histoire de plusieurs familles.
De famille, de politique, d'aventure. Mm-hmm. Il y a de l'intrigue quand même. C'est assez bien tenu.
Oui, je pense que le résumé de la guerre et de la bataille, c'est, il y a assez peu de batailles, en fait. Je pense que c'est la tension qui monte à la bataille qui est plutôt racontée dans la série.
Bien, Anthony Mansuy, vous n'êtes pas le seul expert ici, car si la personne qui est à mes côtés est assise dans un véritable trône tout en fer, c'est à
moi,
sa demande,
crois.
Suite à la réalisation de 5 podcasts inédits pour analyser et décortiquer la série. Vous êtes bien installé, Charline ?
C'est moyen confort.
Vous voulez un petit coussin, peut-être ?
Non, ça va aller. Ça s'appelle Inter is Coming et c'est bien. Je le dis pas que parce que j'ai travaillé.
Alors, répétez-le, s'il vous plaît.
Inter is Coming.
Pardon, j'ai pas entendu.
Inter is Coming.
Ok, breaking, pop. Ça s'appelle Inter is Coming. Breaking pop news. Ah voilà, c'est fait. Alors j'en profite également pour annoncer aux fans une nuit spéciale présentée par Fred Sigrist de minuit à 3h, juste avant la diffusion du premier épisode de la saison 8. Ça s'appelle En attendant Game of Thrones et c'est sur France Inter, évidemment. Évidemment, Anthony, vous n'allez rien nous dire sur cette série que vous n'avez pas vu la saison 8.
Ah non, j'ai pas vu la saison 8. En revanche, ce que je peux dire et qui est reçu de tous les gens qui s'y sont intéressés, c'est qu'en fait, la série est donc avancée plus vite que les bouquins. Et ce qui s'est passé, c'est que George R. Martin a envoyé aux producteurs de la série certains éléments narratifs qu'elle allait se produire dans les bouquins. Lui, il connaît la fin, en fait.
J'espère.
Donc du coup, en gros, il a donné l'os aux producteurs qui, eux, vont mettre leur propre chair autour et lui... La fin sera certainement la même, mais le moyen ou les événements précédents ne seront pas forcément les mêmes.
Qui pour vous alors ?
On n'en saura pas.
Moi, j'en sais rien du tout. Ça, pas de pronostic.
Le mystère reste entier. Non, écoutez plutôt les podcasts présentés par Charline Roux. Anne Goscinny, Anthony Mansuy. Vous le savez, nous sommes vendredi et le vendredi, ce n'est pas uniquement le jour de la sortie du nouvel album de Matt Pokora. Non, c'est aussi le jour de la livraison du magnéto, le grand n'importe quoi d'Alexandre Verret. Et je vais aller voir tout de suite à la cave s'il a été livré. Allez, j'y vais. Bah, y'a rien. Hein ? Tiens, on a sonné. Oh, Elliot le dragon, c'est toi qui livres le magnéto aujourd'hui ?
Un jour, la foudre s'est abattue sur cet arbre. Et l'homme qui se trouvait en dessous est devenu fou. Cet homme, c'était moi. Agadaye, pout pout zizi. Ah, j'ai mis des cacahuètes dans mes fesses.
N'importe quoi.
Je te préviens, John. Ce que je viens de te dire doit rester secret. Tu entends ? Personne ne doit le savoir. Merci. Merci beaucoup.
N'importe quoi.
Vous êtes certain de vouloir épouser une crème anti-âge ?
Bien évidemment. Vous dites ça parce qu'elle a une texture et un parfum unique, grâce à la technologie Vitamil, hautement concentrée en Moringa, et que du coup, grâce à elle, je fais 10 ans moins que vous, hein ? C'est ça ! Vous savez quoi ? Vous êtes un gros jaloux !
over.
Alors, ça sent le cochon grillé, j'ai tous les poils cramés, mais je peux quand même lancer le dernier morceau de l'émission. Hein. C'est Taps Miller. Ferme ta bouche.
Si tu dis des bêtises, ferme la bouche, si t'es cinglé, ferme la bouche, mais qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne sais pas ce que tu dis, ah, ferme la bouche, ah, ferme la bouche, ce n'a ni queue ni tête, ferme la bouche, oh quel casse-pied, ferme la bouche, c'est tout de nous sommes verts, si tu ne sais pas ce que tu dis, ah, ferme la bouche, et patati, et patata, et blablabli, blablabla. Whoa, bah, mais du bien en bas. Et patati, et patata, bla bla bla, bla bla bla. Whoa, bah, mais du bien en bas. Ferme la bouche, tu nous rends tous malades. Ferme la bouche, quel obsédé. Ferme la bouche, ça devient insupportable. Si tu ne sais pas ce que tu dis, ferme la bouche.
Ferme la bouche.
Oh, bah, de l'ambidou.
Ferme la bouche.
Bah, tiens, bah, dombe, dombe, là.
Ferme la bouche.
Oui.
Taps Miller dans Pop 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 sur France Inter, ferme la bouche, c'était en 53. Voilà, c'est ici que les Athéniens s'atteignent. Merci Anne Goscinny. Le troisième volume du Monde de Lucrèce est édité chez Gallimard Jeunesse. J'en profite aussi pour annoncer la sortie d'une édition collector, Le Petit Nicolas fait la fête, et ça c'est chez IMAV. Merci d'être venu.
Merci Antoine.
Cette heure en notre compagnie.
J'ai adoré.
Merci. Anthony, m'en suit l'interview de George R. R. Martin. C'était en décembre dans Society, mais Society, c'est tous les 15 jours. Un journal à ne rater sous aucun prétexte. Merci d'être passé.
Merci.
Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique Elisabeth Collet, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Claire-Sophie Collet, Simon Restat, nos attachés de production, à la programmation musicale Djoubaka et Kélian Yousfi, notre stagiaire. Lundi, dans Pop Pop Pop, l'auteur Paul B. Preciado et elle.
Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire, ça doit rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire.
Aloïse Sauvage qui sera en live sur la scène mythique de Pop Pop Pop. Mais avant lundi, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt comme disent les dragons de Game of Thrones qui font des tutos barbecue sur YouTube. Abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, le 3615, Pop 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 sur Instagram et Twitter.